Merci beaucoup Nathan pour toutes ces découvertes musicales. Il est 20h58 et c'est le temps de retrouver la culture avec Judith. Bonsoir Judith.
Bonsoir. Aujourd'hui, je viens à vous avec un objet culturel qu'il faut s'empresser d'aller voir car il ne va plus durer longtemps. C'est l'exposition Tolkien à la BNF qui s'intitule Voyage en Terre du Milieu et que vous pouvez aller voir jusqu'au 16 février. J'y suis allée en véritable profane, avec pour tout bagage mon visionnage de la trilogie quand j'étais en 3e, ce qui commence sérieusement à dater. Ma participation à la mémoire de Tolkien se réduit à m'écrier « You shall not pass » ou à susurrer « Mon précieux » dès que l'occasion se présente. Autant dire que je suis complètement ignare en comparaison des hordes de fans assidus que l'on peut croiser dans ce type d'exposition, de ceux qui connaissent leur elfique sur le bout des doigts. Toutefois, quelque chose suggérait que je n'étais pas la seule dans ma situation, au vu de l'impressionnante foule qui se trouvait à la BNF par cet après-midi du mois de janvier à peine sorti de l'œuf. Bonne année d'ailleurs.
Ah, bonne année aussi. Mais c'est vrai que tous ces gens ne pouvaient pas être des docteurs en tolkienerie.
Non, en effet. Mais force est de constater que l'exposition n'exige aucune connaissance préalable pour être parcourue avec plaisir et intérêt, étant donné le gigantisme et la dimension totalisante de l'entreprise du maître. Chacun peut y trouver un angle qui lui parle. L'œuvre de Tolkien a littéralement les proportions d'un monde, un monde dont il crée les mesures propres. Les premières salles font état de ces matériaux premiers et nécessaires pour appréhender la suite. En premier lieu, les cartes, détaillées, tracées par Tolkien et perfectionnées au fil du temps, puis les langues, que dis-je, le système linguistique complexe imaginé par l'auteur. De la géographie et du parlage, c'est juste ce qu'il faut pour éveiller la curiosité d'un membre de Transistor.
Après, ce qui met Transistor, c'est aussi plein d'autres trucs. Il y a des actualités, de l'histoire par exemple.
En fait, les langues, c'est avant tout de l'histoire. Tolkien ne s'est pas contenté d'inventer un état d'une langue, sa grammaire et son alphabet, ce qui est déjà pas mal. Il a doté ses créations d'évolutions propres, de métissages qui correspondent à des déplacements géographiques. Bref, il a dessiné l'arbre de ses langues et ses ramifications. Il leur a donné une profondeur historique. Parmi les outils qui sont mis à disposition du spectateur de l'exposition, il y a aussi la chronologie du monde tolkienesque, qui s'étend à l'échelle de plusieurs âges. On peut la retrouver sur le site Tolkien Deal, véritable mine dont la seule table des matières donne le vertige. C'est dans leur profusion que Tolkien adorait les langues. Pour lui, découvrir une nouvelle langue, en apprendre la syntaxe et écouter sa sonorité, c'était comme goûter une pâtisserie. On dit même qu'il n'aurait créé son monde secondaire uniquement que pour donner un cadre et des locuteurs à ses constructions linguistiques, ce qu'on appelle en fait des idéolectes.
Wow, alors là, c'est beaucoup de travail en plus.
Mais c'est ça qui est fascinant dans son œuvre, et que l'exposition, structurée comme un voyage, voire comme une quête, permet d'aborder la notion d'univers mental dans lequel on est immergé. En plus des documents génétiques et des archives, on se promène à travers les illustrations produites par Tolkien lui-même. La bibliothèque fournit en plus des artefacts qui comptent au nombre des inspirations de l'auteur et peuvent aussi constituer une ressource imaginaire pour le lecteur. Il s'agit notamment de l'important corpus de légendes médiévales anglo-saxonnes dont il était spécialiste, françaises et nordiques, au fondement de l'esthétique tolkienesque.
On a un peu l'impression que le travail de Tolkien il s'apparente à une sorte de mythologie.
En effet, et c'est même un peu paradoxal. Tolkien considère qu'il n'y a pas vraiment d'épopée ou de grands récits fondateurs, de récits étiologiques, qui soient propres à l'Angleterre, et il le déplore. C'est pourquoi il entreprend de créer, de toutes pièces, et presque ex nihilo, un tel récit. Alors qu'on sait que la légitimité de ce type de récit, proche de la légende, réside le plus souvent dans son ancienneté, voire dans son immémorialité, c'est-à-dire la coïncidence de son émergence avec un temps des origines. D'où la volonté de donner à son œuvre la profondeur d'un voyage dans le temps, et aussi de la doter de marques concrètes, des objets, des reliques, comme autant de racines du mythe dans l'imaginaire national. Ce projet de création d'une légende nationale participe de son rejet face à l'Angleterre moderne et industrialisée. Dans le monde qu'il crée, il donne un rôle principal à la nature. Cependant, il n'érige pas juste un système qui correspond à ses vues personnelles, mais il trace les contours d'un monde entier, complet et pluridimensionnel avec des valeurs nuancées et des antagonismes. Tolkien est ému par la volonté de donner à l'Angleterre un mythe vivant, selon la formule de Mircea Eliade, c'est-à-dire une histoire à laquelle on souscrit pour de bon, qui nous raconte nos origines et qui se situe dans un temps primordial et antérieur.
Il voulait écrire un mythe auquel on croirait véritablement et il pensait vraiment que c'était possible.
En fait, il y a chez Tolkien un fort engagement en faveur de la nécessité de croire aux contes de fées, un thème qu'il développe notamment dans sa célèbre conférence du conte de fées de 1939. Selon lui, les contes sont pour tout le monde, et pas que pour les enfants. Ils sont indispensables en ce qu'ils nous permettent une salutaire évasion, pas celle du déserteur, dans un monde secondaire et qui nous procure de la joie. Lorsque ses enfants étaient petits, Tolkien écrivait pour eux des lettres qui étaient censées venir du Père Noël en personne et dans lesquelles il leur racontait son quotidien, à grand renfort d'illustrations. On ne peut voir ces lettres à la fin de l'exposition sans s'émerveiller intérieurement à la pensée des enfants réjouis recevant des lettres d'un Père Noël dont ils se fichent éperdument s'il existe ou pas, puisque eux peuvent s'évader avec ces histoires avant de retrouver leur propre père. On croit alors avec Tolkien en la puissance de l'évasion dans l'imagination, conçue comme une véritable création. Pressez-vous à la BNF pour visiter la Terre du Milieu et tout ce qu'il y a autour.
Merci Judith, c'est bien noté, on ira faire ce voyage en Terre du Milieu.